Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
En chemin cette semaine avec Sainte Edith Stein, qui prendra en religion le nom de Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, juive. Elle sera déportée au camp d'extermination d'Auschwitz et elle sera mise à mort le 9 août 1942, philosophe et théologienne. Elle sera canonisée par le pape Jean-Paul II le 11 octobre 1998, philosophe crucifié. Je reçois toute cette semaine avec grande joie un auteur de Sainte Edith Stein, docteur en philosophie, agrégé et poète, Éric De Rus, auteur de cette thèse sur Edith, parue aux éditions du Cerf, Anthropologie phénoménologique et théorie de l'éducation dans l'œuvre d'Edith Stein. Éric De Rus, très heureuse de vous recevoir.
Merci beaucoup, c'est une joie.
Ouvrage, plus qu'un ouvrage, une thèse. C'est une thèse de 20 ans de cheminement, d'études.
De cheminement, c'est à peu près ça, oui.
Priorisation aussi oui. De tout le travail de cette philosophe.
Exactement, c'est ça, c'est le fruit d'un très 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 long travail. Et donc c'est la publication d'une thèse de doctorat soutenue en novembre 2018.
Vous avez écouté quelle voix pour vous laisser déplacer jusqu'à ce travail de thèse autour d'Edith hein,
Je crois que la voix que j'ai écoutée, c'est celle d'une nécessité intérieure qui, jour après jour, sans me dire où elle me conduirait, s'imposait à moi. Voilà, c'est une nécessité intérieure. Je crois que nous portons en nous, chacun, une petite voix que l'on reconnaît et qui vous appelle, qui vous ouvre des horizons. Récemment, je lisais un texte du pape François qui disait « La voix de Dieu a un horizon ». Alors que la voix du malin, c'est l'impasse. Eh bien, c'est une voix qui m'orientait vers la vie, dans une direction, et notamment à la découverte et à l'approfondissement permanent d'une pensée, d'une vie qui sont celles d'Edith Stein, à laquelle finalement j'ai consacré ce travail de doctorat.
Alors, pourquoi se plonger dans ce travail monstrueux oui. On ne va pas décourager les auditeurs qui pourront devenir eux-mêmes aussi lecteurs de cette thèse. Qu'est-ce qui vous a déplacé jusqu'à prendre 3 ans, même 15 ans un peu de votre vie pour mener à bien ce travail qui est un travail intellectuel
oui,
et de déplacement intérieur et de conversion.
Oui, c'est exactement
d'écriture, de pensée.
Oui,
qu'est-ce
de
qui
vie.
S'est passé chez vous?
À partir du moment où Edith Stein s'est plus ou moins imposée à moi dans les années 2000, j'ai voulu la découvrir. Et comment découvrir un auteur sinon en écoutant ce qu'il a à nous dire? Non pas en lisant ce que d'autres d'abord ont écrit sur, mais il faut aller à la source. Et donc cette première exigence était de la lire. Et en la lisant, au-delà des mots, j'entendais intérieurement, je captais une force de vérité, cette parole, et ça c'est l'expérience que j'ai faite très tôt, cette parole est vivante parce qu'elle est capable d'accompagner une vie. Parce que ce n'était pas juste des mots, ce n'était pas un discours, aujourd'hui on entend beaucoup de discours, mais une parole vivante c'est quoi? C'est une parole capable d'accompagner une vie. Et qu'est-ce que ça veut dire une parole capable d'accompagner une vie? Une parole qui vous permet de rester vivant, de rester relié à la vie, de rester debout, d'avancer, de vous relever. Et donc cette parole, parce que j'ai découvert que c'était le fruit de sa vie, elle dit elle-même « Je suis ainsi faite que je dois porter reflet. Et tout ce sur quoi j'écris, dit-elle, c'est ce qui m'a d'abord préoccupé intérieurement. » Et donc cette parole était vivante pour cette raison. Et donc quand j'ai fait cette expérience très tôt, eh bien, un texte m'a conduit à un autre, et un autre à un autre, et j'ai voulu comprendre, chercher, je crois que c'est ça l'aventure du chercheur, me mettre à l'écoute, chercher. Et quand on cherche, on ne sait pas ce que l'on va trouver et on doit accepter de ne pas avoir de plan trop figé au départ. Donc c'est une aventure. Et je peux vous dire que je ne savais absolument pas qu'au départ, en la lisant, ça allait déboucher sur un jour un tel travail. Je
n'en
avais
pas programmé.
Non, pas du tout. Pas
donc
du
là
tout.
Encore, rencontre inattendue. Et ce
surprise.
Travail de thèse était inattendu pour vous. Vous n'avez pas pu refuser. Qu'est-ce qui s'est passé au moment très précis où vous êtes lancé dans ce travail?
Bon, j'ai mis beaucoup de temps à accepter quand la proposition m'a été faite, puisque j'avais publié quelques ouvrages sur Edith Stein, mais pour la faire connaître et faire connaître sa pensée sur l'homme et sur l'éducation. Et puis, un jour, on m'a laissé entendre plusieurs personnes. Et ça aussi, c'est, il faut discerner. Il faut écouter ce que l'on vous dit. Et plusieurs personnes me disaient, mais pourquoi ne vas-tu pas jusqu'à faire une thèse de doctorat? C'est important aussi si tu veux avoir une légitimité dans le monde académique, si cette pensée, tu veux la porter. Parce que pour moi, le but, c'était de servir cette pensée, de me mettre au service. J'aime beaucoup le rôle de l'interprète. Il fallait que je me mette au service. Voilà. Ce qu'a fait Edith Stein pour d'autres auteurs, elle était traductrice aussi, c'est servir. Et elle dit, le traducteur doit être comme une vitre transparente qui laisse passer la lumière.
Vous avez eu peur entre nous d'entrer dans cette œuvre d'Edith et de vous mettre au service de cette œuvre?
J'avais peur parce que...
Tout en restant dans cette quête importante pour Edith de vérité.
Oui, de vérité, d'exigence donc, parce que seule la vérité peut tout exiger. Et j'avais peur parce que je pressentais que ça exigerait tout, c'est-à-dire un don intérieur complet. Parce que ce n'était pas pour moi une manière de me servir, mais de me mettre au service. Et quand vous vous mettez au service, eh bien, vous ne pouvez pas dire oui un jour et puis au revoir le lendemain. Donc j'ai beaucoup attendu pour m'engager parce que je soupçonnais ce que ça pouvait exiger, mais on ne le réalise que...
C'est considérable, c'est,
ben c'est
très concrètement...
C'est considérable au sens où les exigences...
Des renoncements au quotidien pendant plusieurs mois?
Oui, au quotidien, puisque je n'ai pas arrêté mon travail professionnel pendant, donc ça s'ajoutait, et donc ça exige que toute votre énergie, que vous calculiez pour ainsi dire la dépense d'énergie pour garder de l'énergie pour un tel travail, donc très concrètement, mais une vie sociale pendant les dernières années quasi inexistante, même en vie de couple, je n'avais très peu de temps, et là c'était douloureux, c'était des sacrifices pour la famille, pour les amis, je n'avais pas de temps parce que l'œuvre exigeait tout, Edith Stein et l'écoute qu'elle a appelé, exiger tout de moi-même, les forces vives de mon être, et donc peu de sommeil les derniers temps, une vie d'une ascétique, voilà. Mais voilà, c'est maintenant une page quand même tournée.
Et ce travail de thèse vous a donné des lumières que vous ne soupçonniez pas sur les écrits et l'œuvre d'Edith Stein?
Alors, en allant plus loin, en effet, je peux dire que vous avez raison, vraiment cette question est importante parce que je crois qu'avec du recul, quand on s'immerge, parce que là c'est une immersion dans l'œuvre, de la première à la dernière, on traverse.
On pénètre l'œuvre.
On pénètre l'œuvre et en la pénétrant, on essaie de rejoindre une source. Quelle est la ligne vivante de cette œuvre? Qu'est-ce qu'il a porté d'œuvre en œuvre? Et donc, quand on épouse cette ligne, moi, ce qui m'a frappé, et c'est ce que quand même j'ai découvert, c'est l'unité profonde de l'œuvre d'Edith Stein. Des premiers écrits au dernier, en fait, il y a une unité, vous en avez parlé au départ, cette quête de la vérité sur ce qu'est l'homme, sur son être. Et cette quête de vérité, c'est le point autour duquel toute cette œuvre s'est construite et toute sa vie s'est construite, puisque finalement l'œuvre et la vie chez elle sont indissociablement liées. Et cette unité, là, quand vous vivez cette immersion, elle vous apparaît avec une clarté, même si après il faut essayer de la rendre à travers ce travail. Ça a été l'immense découverte. Je le soupçonnais avant, bien évidemment, j'en avais l'intuition. Mais avoir l'intuition et soupçonner et le vérifier expérimentalement en se coltinant avec les textes, c'est quand même tout autre chose. Donc c'est cette unité que j'ai vérifiée.
Je rappelle qu'on peut se plonger donc, dans beaucoup d'écrits que vous avez eus dans les premiers temps d'Edith Stein. Intériorité de la personne et éducation, l'art d'éduquer, la vision éducative chez Edith Stein. Et puis ce dernier, près de 500 pages, c'est une thèse. C'est un travail, pas de toute une vie, mais une bonne partie.
Mais malgré tout, on en fait un seul, je crois.
Pour les lecteurs, auditeurs surtout, qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas l'œuvre d'Edith, la fille d'Edith, que conseiller comme ouvrage parmi tous les ouvrages avant de se plonger peut-être pour les curieux dans cette thèse.
Il y a peut-être deux ouvrages que je recommande souvent au départ pour un lecteur qui ne la connaît pas. Un ouvrage de Cécile Rastoin, qui est prieure du Carmel de Montmartre, sœur Cécile, qui est une spécialiste aussi, qui s'appelle Enquête sur la source. Edith Stein, Enquête sur la source, c'est une très très bonne et remarquable introduction à la pensée, à la vie, à l'œuvre d'Edith Stein. Et puis après, pour plonger, Vie d'une famille juive d'Edith Stein elle-même, son autobiographie inachevée. Et puis ensuite, on peut passer aux études. Alors,
plus sérieux. Et on peut se procurer cette thèse, ce livre paru aux éditions du CERF, de vous, Éric de Rust, Anthropologie phénoménologique et théorie de l'éducation dans l'œuvre d'Edith Stein.
Oui, c'est ça. Voilà. Merci.
Merci, je vous dis à demain. Et puis, on reste donc en chemin, si vous le voulez bien, avec Edith Stein. À demain.
Merci, à demain.